Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
L'affaire tragique s'est déroulée il y a 4 ans, presque jour pour jour. Vous vous souvenez peut-être de ce paysan de Saône-et-Loire, Jérôme Laronze, tué de 3 balles par un gendarme qui a dit se sentir menacé par cet homme en effet révolté. Recherché depuis une dizaine de jours à l'époque, l'éleveur s'était déjà violemment opposé à un contrôle vétérinaire de son exploitation, organisé par des inspecteurs des services sanitaires, soutenus par des forces de l'ordre. Il avait après cela pris la fuite. Depuis cet événement dramatique, il faut dire d'abord que le tribunal administratif a définitivement jugé que les 3 contrôles qu'il a subis étaient irréguliers. Un article du magazine en ligne Reporter lui rend également hommage l'année dernière et décrit très bien l'acharnement administratif de la direction départementale de la protection des populations pour faire rentrer Jérôme Laronze dans les cadres contraignants des normes sanitaires. Et la phobie grandissante que l'éleveur nourrit à l'égard de ces contraintes qu'il juge inappropriées et contraires à ses convictions. Esprit libre, écrit Marie Astier, Jérôme Laronze ne suit pas, en effet, le modèle classique des exploitations agricoles du coin. Dans les années 2010, sa ferme passe en agriculture biologique. Il laisse ses vaches dehors, il pratique la vente directe. Il aime se renseigner, aller à des conférences, innover. Un start-upper, en quelque sorte. Et puis, en pleine terre charolaise, où elle est toute puissante, Jérôme n'adhère pas à la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Il préfère les petits syndicats paysans, où il est très actif. Mais l'administration est plus forte que lui. Elle suit sa logique et exige que son exploitation soit conforme. Peu à peu, les procédures, de plus en plus musclées, auront raison non seulement de son enthousiasme, de sa force de travail, mais aussi, dans une certaine mesure, de son libre arbitre. La vie de Jérôme, 37 ans, n'est plus qu'une lutte absurde et inégale avec la DDPP. Il délaisse parfois ses animaux, oublie ceci ou cela, croule sous les procédures administratives, jusqu'à prendre la fuite finalement. Tout plaqué pour échapper à la police qui le recherche, imaginez un paysan qui en arrive là. Tout de suite dans les pieds sur terre, nous sommes dans le même coin et ce sont 2 éleveurs aussi qui ont eu un choc terrible et qui essaient à leur façon de sortir des sentiers battus de l'élevage intensif. Pour l'instant, ils ont l'air d'y arriver. Et c'est un reportage de Léa Minot.
Moi, je sais que quand j'étais tout petit, j'étais déjà au milieu des vaches, quoi. Sans peur, sans rien, mon père m'a retrouvé à l'âge de 6 ans, au milieu des vaches, quoi. J'étais déjà éleveur depuis tout petit, déjà dans ma tête, quoi. Alors, un éleveur, tu peux pas faire autre chose que élever des bêtes, quoi. Normalement, ils vont gueuler quand on rentre. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours dit j'aurai une ferme. C'est un rêve. On est bercé dedans et on a envie de faire comme son père, quoi. Et j'ai été jusqu'au bout pour faire le même métier. Je sais pas comment l'expliquer, on l'a dans le sang et on peut pas faire autre chose, quoi. Quand je rentre le soir comme ça, je regarde tout de suite si elle a une café le veau ou pas. J'habite à Saint-Prix, j'ai 33 ans. Je fais ce métier depuis l'âge de 16 ans et je m'appelle Jean-Marc. Bah, à la ferme de mon papa, en fin de compte, mon papa était tombé malade quand il avait une cinquantaine d'années et du coup je l'ai aidé sur cette exploitation et en pensant reprendre la ferme petit à petit comme ça, mais du coup il a préféré remettre la ferme à quelqu'un d'autre que moi. Parce que lui il voulait pas que je refasse ce métier. Il voulait peut-être pas que je sois endetté, j'avais un métier qui soit sûr. Alors du coup, c'est en 2012 que je suis parti de la ferme de chez mon père. Je suis parti du jour au lendemain et ça a été dur, oui. On s'est plus parlé pendant un moment. Je suis parti dans la Nièvre après travailler dans une exploitation céréalière. ils ont repris une ferme avec des vaches. Et du coup, moi, j'ai fait le travail après. Je m'occupais des bêtes, quoi. J'étais content, quoi. Et le matin, je me levais, c'était 6h30, 7h. Je faisais mon travail le matin. Il y avait une centaine de vaches, quoi. J'étais tous les jours avec, quoi. Alors, ça venait un peu, même que j'étais ouvrier, c'était un peu mes vaches à moi, quoi. C'était moi qui m'en occupais, mais après, la ferme m'appartenait pas, quoi. J'étais que ouvrier, quoi. J'ai fait un hiver, tout, ça allait pas trop mal. Et puis après, ben, et je me suis fait percuter. Le 7 avril 2014. J'avais 25 ans. J'étais en train de lâcher les bêtes. Je les sortais du bâtiment pour les mettre dehors. J'avais une bétaillère et puis ils étaient dans la bétaillère, je les mettais au pré, à la mise au pré. J'étais avec un télescopique, un tracteur, quoi. Et puis bah la bétaillère était dessus, vu qu'on allait juste. On faisait pas beaucoup, il y avait quoi? Il y avait même pas 1 km, hein, qu'on faisait. On traversait juste la cour de la ferme, puis on allait dans les prés derrière. Et puis bah, je suis passé sur le passage à niveau, mon collègue est passé devant en quad. Et puis lui il est passé, mais pas moi. Il y a un train qui est arrivé et ça le voyant a jamais marché et il était à 130 et quelques quoi. C'était un TER. Le télescopique a fait 20 mètres, il a été éjecté à 20 mètres et moi j'ai fait 50 mètres en vol. J'ai volé 50 mètres plus au loin et je suis tombé au milieu des rails. Je suis resté dans le coma pendant 2 semaines. J'ai fait un rêve, c'était un rêve quoi carrément, mais je m'en souviens comme si c'était la réalité quoi. J'étais dans une exploitation qui avait des. J'étais en fauteuil roulant et j'étais au milieu. C'était un peu comme un genre pour des handicapés, on aurait dit. Et y avait des poules, des poulets, il y avait des ânes, il y avait des vaches, il y avait un peu de tout. Et on soignait les bêtes, on arrivait à soigner les bêtes malgré qu'on était handicapé. Les médecins, moi, au début que j'ai eu mon accident, ils ont dit que j'étais mort. Hein. J'allais pas revenir, je revenais pas. Et puis déjà, quand j'ai eu mon accident, j'étais héliporté. Et le médecin du SAMU, il ira pas jusqu'à Dijon. Voilà. Et j'ai eu la force de me battre et j'étais au bout, quoi. Mais la force, on l'a qu'une fois, je pense, comme ça. Après, moi, par contre, ce qui m'a tenu, je crois que c'est. Si je suis revenu, oui, à moi, c'est peut-être. J'ai puisé la force où je l'avais, et je pense que mon métier, il en est pour quelque chose. Et quand je suis sorti du coma, la première chose que j'ai demandé, c'est si mes vaches allaient bien. Dans ma tête, je savais très bien que quand j'ai eu l'accident, j'avais des vaches, j'emmenais mes vaches, quoi. Et après, une fois que je suis revenu à moi, on va dire, j'ai été à l'hôpital après encore, en observation, et après, j'ai redemandé à retravailler le 1er juin, autour du 1er juin, j'étais dans un tracteur en train de retravailler en mi-temps thérapeutique, un mois et demi après. Ça a été dur parce que je voyais, je pouvais plus faire mon travail. Hein. J'avais plus de force du tout. J'arrivais même pas à soulever quelque chose. Voilà, je voyais que mon métier était foutu, quoi. Et du coup, j'ai pris l'idée de partir de l'exploitation pour retourner à l'école. Et en 2016, j'ai vu que j'avais repris les forces et tout, aussi pour reprendre une exploitation. C'est là que je me suis installé à Saint-Prix. J'ai retrouvé là une ferme et je me suis installé en 2017. Après, je me retrouve à la tête d'une exploitation qui a 180 hectares et puis 120 vaches à veau. Et puis en tout, il y a 300 bestiaux, quoi. Et je suis tout seul. C'est ce que je voulais, récupérer une exploitation tout seul et avoir une ferme qui était viable. Et je l'ai fait, quoi. J'ai été au bout, quoi. J'arrive à mon but d'avoir mon exploitation à moi et puis me dire au moins je suis plus ouvrier et je travaillerai plus pour personne mais je travaillerai pour moi. Même avec un gros choc que j'ai eu j'ai continué, j'ai pas lâché. L'accident a changé beaucoup de choses, hein, mon caractère est devenu plus le même. Je le sens et je suis plus pareil. Je suis plus à l'écoute des gens. Et après, avec mes bêtes, oui, il y a, je veux dire, j'ai l'impression qu'on se comprend, quoi. Avant mon accident et après, avec les bêtes, ça a changé quelque chose. J'arrive mieux à cerner leurs réactions, tout. Je suis plus à l'écoute de. Je visionne plus les bêtes qu'avant, quoi. Je prends le temps de faire, je les bouscule pas, quoi, les bêtes. Avant, j'étais peut-être plus nerveux, plus. Ouais, je rentrais plus. Fallait que ça. Admettons, fallait que je les rentre dans un enclos, fallait que ça aille, quoi. Que là, je prends le temps de les faire aller et ils y vont tout seuls en général. Je les appelle, ils viennent, quoi. Que ça, j'aurais peut-être pas fait avant. J'étais moins à l'écoute des bêtes, quoi, on va dire. On la soigne correctement, on la laisse vivre comme on n'est pas tout le temps sur eux, on en fait ce qu'on en veut, quoi. Puis je me rends compte aussi que peut-être que c'est mon accident qui m'a fait voir, que je me rends compte que l'être humain, en fait, une bête est plus à l'écoute qu'un être humain, en fait. En 2017, quand j'ai repris l'exploitation, si j'ai repris tout de suite après l'école une exploitation, c'est qu'en 2017, ça allait pas trop mal dans l'élevage. On vendait bien nos bêtes, ça repartait, il n'y avait pas de sécheresse déjà, il n'y avait rien, ça allait bien, c'était des bonnes saisons. Et puis au fil du temps, depuis 2017, les prix des bêtes ont chuté. De vendre des broutards à 900, 1000 euros, moi, j'en ai vendu à 720, 800, quoi. Là, j'ai eu une perte, moi, sur mes broutards, j'ai eu une perte de 10 000 euros. Plus, après, on a des sécheresses qu'il faut acheter le double de foin qu'il faut. On passe 2 années de foin en une année. Et tout accumulé l'un dans l'autre, au bout d'un moment, oui, on arrive en 2021, c'est compliqué, quoi. Pour l'instant, je peux pas construire, je peux rien faire. Alors, du coup, je vis dans un mobil-home. Après, il faut faire une autre alternative, quoi. Sachant que moi, je fais un peu d'entreprise à côté. Je fais du broyage de haies, je fais tout ce qu'on. Je peux faire du transport, je peux faire pas mal de choses. On m'appelle, on me demande, je m'arrange pour essayer d'y faire. Et même avec ça à côté, je suis tout seul sur l'exploitation. Je dis pas que je vis mal, mais il faut tout. Il faut tout faire ça pour pouvoir arriver, mais c'est pas normal. Alors moi je dis que l'État y est pour quelque chose. Les aides, on n'a rien demandé. Vaut mieux qu'ils nous payent les bêtes comme il faut, le prix qu'elles valent, et puis qu'on a moins de primes, quoi, parce que faut savoir qu'il y a 75 à 80% des primes qu'on nous donne qui repartent. On nous a obligés à se développer. Il fallait produire, produire, produire à un moment. Puis maintenant, même avec une exploitation comme moi, moyenne, on a du mal. C'est pas normal. On devrait avoir, même qu'on a 100 hectares chacun, tout le monde, on devrait vivre avec ça. Et bien vivre. Mais là, c'est pas le cas. J'ai une ferme, je suis d'accord, mais c'est mon bonheur pour moi, oui, c'était peut-être mon bonheur, mais maintenant, je suis dans un bocal fermé et puis j'arrive pas à. Je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue dans ma vie de reprendre une exploitation. Même que j'ai eu un gros accident, que j'ai failli passer à la. J'étais entre la vie et la mort. J'ai été jusqu'au bout, j'ai eu tout ce que. Là, j'ai eu ce que je voulais. Mais maintenant, je me demande pourquoi tout ça. Et là, j'ai pas de réponse. Et je suis tout seul dans la vie, j'ai personne, j'ai pas de compagne, j'ai personne. Arriver là avec une exploitation de 120 vaches à veau et puis 180 hectares, tout seul, faire tout ce que je fais, pourquoi le comment? S'il y en a un qui peut me dire une réponse, j'attends tout de suite. Mais il n'y a peut-être pas de réponse à ça, c'est juste parce que c'est que je suis un éleveur et puis que je suis fait pour ce métier. Là, je prends le tracteur avec la fourche et puis la tailleuse qui est ici. Voilà.
Alors, je m'appelle Émilie Janin et je suis éleveuse de vaches charolaises dans l'Auxois, donc à Berizot, sur la ferme de Lignières. C'est une zone où il y a des jolies petites collines avec plein d'herbes dessus, au cœur de la Bourgogne. Moi, je suis née fille d'éleveur parce que mon père était éleveur et j'ai toujours eu un rapport particulier avec les vaches, les animaux. J'ai beaucoup monté à cheval, j'ai toujours, depuis toute petite, un rapport avec les vaches qui était incroyable, où j'ai trouvé belle et rassurante. Et je pense que ça, mon lien avec les vaches, bah oui, vient de papa et vient de de ma grand-mère, qui avait vraiment un rapport. Alors, ils avaient des vaches laitières, pas beaucoup, mais ils les trayaient au pot dans l'écurie et j'étais souvent avec eux. Et je me rappelle que voilà, elle leur donnait des noms, elle leur parlait, et c'était très très drôle parce que il y avait une relation de complicité entre les vaches et elle, quoi, mais vraiment très grande. Ce qui paraissait magique, c'est que c'était un tout petit bout de femme qui arrivait à décider et à organiser ce troupeau de vaches, quoi. C'était impressionnant. Papa, il était plus grand comme moi, et je me rappelais qu'il y avait un rapport avec ses vaches, mais finalement, j'ai plus ces souvenirs de ma grand-mère avec elle parce que j'étais plus petite et j'y ai passé beaucoup de temps. Et puis papa, c'était un mec, donc peut-être que j'étais moins sensible à sa façon de faire. Mon père m'avait proposé de m'installer à un moment donné avec lui, et quand il m'avait posé la question, je lui avais dit non, merci, je pense pas que j'en ai envie, enfin voilà. J'étais quand même dans le milieu agricole, mais un peu plus à l'extérieur quand même. Mon boulot, c'était de conseiller des jeunes qui voulaient devenir agriculteurs. Et donc, c'était leur donner les renseignements pour s'installer, les démarches à l'installation, les former, faire quelques... Voilà, j'animais des formations. Et puis, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, mais je n'avais pas forcément prémédité que j'allais m'installer. C'est venu un peu, on va dire, comme un accident, mais ça devait être écrit, quoi. C'était un matin de mars 2006, le 2 mars. En fait, j'étais dans mon boulot et mon père, qui était à ce moment-là seul sur la ferme, éleveur, c'était très tôt le matin, je pense que ça devait être 8h30, 9h. Il emmenait mon frère prendre une leçon de conduite pas très loin d'ici, donc à Semur-en-Auxois. Et il y avait un peu de neige sur la route, un peu de verglas, et il a perdu le contrôle du véhicule. On ne sait pas trop dans quelles conditions. On sait juste qu'il roulait vraiment pas vite, parce que mon frère se rappelait qu'il avait vu 50 km/h sur le compteur juste avant d'avoir l'impact. Mais ils ont perdu le contrôle du véhicule et ils se sont retrouvés dans un arbre. Et donc moi, je suis arrivée à mon boulot ce matin-là, et j'étais à peine arrivée au boulot que ma mère m'a appelée sur le fixe du boulot en m'expliquant qu'il venait d'avoir un accident. Donc ils se sont pris un arbre. Mon frère était à l'hôpital à Semur-en-Auxois. Il avait des commotions, mais et très choqué, mais il avait relativement peu de blessures. Et mon père était transféré à Dijon en urgence en hélico parce qu'il était dans le coma. Il avait un gros traumatisme crânien. Et donc là, j'ai quitté mon boulot dans la seconde et j'ai été le retrouver à Dijon aux soins intensifs. Et puis j'ai attendu très longtemps. Et voilà, en fait, c'est arrivé. On n'a pas vraiment d'explication. On sait juste qu'il a dû cogner sa tête quelque part pendant l'accident et que ça devait être un mauvais choc à ce moment-là qui a provoqué un trauma crânien suffisamment important pour provoquer le coma. Et puis, en fait, les vaches étaient dans la période, c'était donc au mois de mars, donc c'était la période des naissances. C'était quasi immédiat, je me rappelle plus exactement, mais... dès le lendemain matin, il fallait donner à manger aux vaches, il fallait deux fois par jour s'en occuper. Donc il y avait des copains de papa qui étaient venus, il avait un salarié à l'époque à mi-temps avec une autre ferme, donc il était là, il y avait mon frère, et donc en fait on a tout de suite organisé comment on allait s'occuper des vaches concrètement pendant qu'il n'était pas là, quoi. Et donc dans le premier des réflexes que j'avais, alors que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'étais enceinte de 6 mois, j'ai normalement lui donné naissance 3 mois plus tard, j'ai eu un élan de tout quitter, donc je me suis mis en congé et je me suis mis à chausser les bottes, enfiler la cotte et m'occuper des vaches. Concrètement, chausser les bottes, ça a été presque instantané, mais le processus de se dire on va reprendre la ferme, c'était plus long, ne serait-ce que parce qu'on était dans une grosse incertitude. parce que on nous a pas dit bah il va y rester pendant X mois ou X semaines ou X années. On nous a dit au départ, on n'est pas sûr qu'il tienne la nuit, on n'est pas sûr qu'il tienne la journée, on n'est pas sûr qu'il tienne les 2 jours, et ainsi de suite. C'était comme ça à vivre par tranches très courtes, avec des tranches horaires très très courtes. Puis à chaque fois qu'il a tenu, au début on s'est dit chouette, il a tenu, c'est cool. En fait, on ne savait pas vraiment ce qui se passait et s'il allait pouvoir revenir ou pas. Il y avait vraiment la notion au début, et quand je dis au début, ça peut être même plusieurs années, que c'était toujours possible qu'il se réveille comme avant et qu'il revienne. Moi, je me rappelle d'un moment où on a tous cru, puisque donc j'étais enceinte de 6 mois quand tu as eu l'accident, et donc Lennon, mon deuxième fils, est né, et ça faisait donc à peu près 3 mois qu'il était dans le coma. Et donc, on avait tous imaginé que de lui annoncer la naissance de Lennon, ça allait pouvoir provoquer quelque chose chez lui. Et puis, en fait, non. Eh ben, en tout, il est resté un peu plus de 14 ans dans le coma, puisqu'il est décédé le 17 avril l'année dernière, en 2020. Mon frère était jeune, il n'était pas majeur, il devait avoir 17 ans, parce que lui était plutôt, il savait d'entrée de jeu depuis tout petit, mon frère qui voulait reprendre la ferme. Il n'était pas prêt, il n'avait pas fini ses études. Moi, j'avais tout ce qu'il fallait, entre guillemets, en termes d'études, de stages et compagnie. Et donc, du coup, ma réaction, ça a été, je vais m'installer le temps que Brian finisse ses études et on reprend la ferme. C'était ça.
Aujourd'hui, vous avez combien de vaches par rapport à votre père ?
Eh bien, on a gardé le même troupeau. Il avait 80 vélages, donc 80 mères vaches à peu près, et on a à peu près le même nombre de vélages. C'est vrai qu'on disait c'est le troupeau de papa. En fait, le troupeau a bien évolué parce que depuis 15 ans, il y en a quelques-unes seulement qui sont nées quand il y a eu l'accident, quoi. Donc le troupeau a changé, mais la base, c'est son troupeau. Il y a des gens qui nous avaient dit mais pourquoi vous n'avez pas changé de race pour avoir encore une viande plus persillée, plus ceci, plus cela. Et en fait, nous, c'était important de garder le troupeau de notre père. En tout cas, pour mon frère et moi qui avons repris la ferme, c'était très symbolique. Quand il y a des moments où je vais pas bien, pour différentes raisons, je vais les voir, même pas longtemps, et en fait, ça apaise. Puis quand elles sont à l'écurie, ce que j'adore, là, donc elles sont à l'écurie en ce moment, enfin, il y en a quelques-unes qui sont encore dehors, j'entends le bruit des mâchoires qui craquent le foin sous leurs grosses dents et ça fait un bruit qui est un peu sourd mais qui est hyper rassurant, qui est très calme, enfin je sais pas comment dire, c'est comme un ronronnement d'écurie quoi en fait. Et puis elle dégage quelque chose d'apaisant. Une vache en fait, c'est des animaux qui sont assez tranquilles, voilà, elles ont vraiment leurs 4 pieds sur terre qui les ancre, et moi j'ai l'impression qu'elles m'aident à m'ancrer quand je suis vers elles. Et après, oui, l'accident de papa forcément nous a fait poser des questions sur la mort et ce rapport qu'on devait, qu'on avait entre la vie et la mort, quoi, tout le temps. Et nous, pour produire la meilleure viande possible, forcément, il faut passer par l'étape de mettre à mort les animaux. Et comment on fait pour le faire dans les meilleures conditions possibles? La première fois que j'ai amené une vache à l'abattoir, j'étais déjà hyper stressée, j'avais peur. J'avais peur de ce qu'allait se passer, en fait. Je savais pas comment ça allait se passer, tout simplement, parce que c'était effectivement la première fois. Et du coup, je découvre comment il faut que je m'installe, comment je recule mon camion. Donc c'était une petite remorque, le van qui était derrière le 4x4, et comment je vais décharger la vache. Donc là, je vais à l'abattoir d'Autun, qui est à 45 minutes de route, à peu près 50 quand on route avec le van. Ça veut dire que pendant ces 50 minutes-là, elles ne sont plus avec leurs copines, elles ne savent pas ce qui se passe. Elles voient bien que moi, je ne suis pas comme d'habitude. Et donc ouais, c'est stressant. C'est pas tant de leur dire au revoir et de savoir qu'on ne va pas les revoir, mais c'est surtout de ne pas savoir comment ça va se passer, quoi. Moi, je leur parle et je leur dis, voilà... là, tu ne vas pas faire de veau de nouveau cette année, donc tu vas t'occuper de toi, tu vas faire de la viande, tu vas faire du gras, tu vas profiter, tu as une année et tu vas nous donner les meilleurs steaks du monde. Et tu vas ravir et tu vas nourrir et tu vas permettre à des enfants de grandir, tu vas permettre à des gens d'être en pleine santé, en pleine forme, de se régaler, de voilà. et on va te remercier pour ça. Et donc moi, j'ai tout un petit rituel comme ça quand on les met déjà à ce qu'on appelle l'engraissement. Et après, quand je les emmène à l'abattoir, pareil, je leur raconte ce qui se passe. Je leur dis merci, je leur dis au revoir et merci, avec une caresse, en général, ouais, tout le temps, sur une zone particulière de leur dos. Ça, je le fais tout le temps. Il y a 5 ans, on m'a parlé d'un abattoir mobile qui existait pour des bovins en Suède. Et donc, du coup, on est parti voir comment ça se passait en Suède. Et en fait, quand j'ai vu comment ça se passait, je dis « Ok, je veux plus élever des animaux si on fait pas en France. » Donc, l'abattoir mobile, normalement, il devrait enfin pouvoir fonctionner en France. Là, début, on va dire, juin 2021. J'ai hâte parce que vraiment à chaque fois que moi je les emmène, donc là j'ai fait une pause, tous les ans on fait une pause entre début décembre et février où on n'abat plus d'animaux parce que bon c'est une période où on a besoin de se consacrer à d'autres choses, mais aussi physiquement moi il y a des moments où je ne peux plus emmener d'animaux à l'abattoir. J'y vais régulièrement, d'habitude j'y vais tous les 15 jours, mais il y a des moments où c'est vraiment une violence et toute cette énergie que j'ai mis pour mettre en place cet abattoir mobile pour les animaux, je pense que je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cette histoire avec papa et s'il n'y avait pas eu tous ces questionnements sur la vie, la mort, qu'est-ce qu'une belle mort, qu'est-ce qu'une mort digne, qu'est-ce qu'une mort où on respecte l'autre. Et pour moi, l'abattoir mobile, ça permet de... Du coup, que cet abattage se fasse sur leur lieu d'élevage, c'est-à-dire donc que leur éleveur, celui qui a développé le maximum de liens avec eux, puisse être là. Donc du coup, quand l'éleveur est là, on imagine mal comment il pourrait laisser ses animaux maltraités. En même temps, il y aura les autorités sanitaires qui seront là aussi, donc ils pourront vérifier que les normes sont respectées. Et voilà, quoi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter une amélioration sur comment on fait pour abattre dans de bonnes conditions les animaux dont on va manger la viande, quoi, et qu'est-ce qu'on fait pour le faire dans les meilleures conditions possibles.
C'était Éleveur, l'accident qui a tout changé, un reportage de Léa Minot réalisé par Cécile Lafont. Merci à Jean-Marc Émilie et Eulalie Torres. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Mélissa Foust. Et notre stagiaire, c'est Victor Candelaft.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Tintin sur France Culture, dans le temple du soleil.
Capitaine, le Pachacamac hisse d'autres pavillons.
Cap sur le Pérou, sur les traces du professeur Tournesol.
Il y en a un jaune et un autre à carreaux jaunes et noirs.
Donnez-moi ces jumelles.
De montagne en forêt vierge jusqu'au repère des derniers Incas qui l'ont enlevé pour le châtier d'avoir volé le bracelet sacré de leur roi. Tintin, Haddock et Tournesol finiront-ils sur le bûcher ? Le Temple du Soleil, une coproduction France Culture, Moulinsart et la Comédie Française avec l'Orchestre National de France. Le feuilleton à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en compagnie d'Awani.
Sur France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
De Bagneux à Rome, nous reviendrons sur le parcours d'Awani, autrice, compositrice, interprète. Elle a signé 5 albums. Elle est également comédienne. Elle lèvera le voile sur ses sources d'inspiration et ses méthodes de travail.
Affaires culturelles, aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Très bel après-midi sur France Culture. Tout de suite, de bon droit, nous retrouvons Antoine Garapon.
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui va se demander aujourd'hui ce que la Covid a fait au travail et donc au droit du travail, en compagnie de Diane Bernard et Frédéric Géat. Télétravail, travailleurs de première ligne, activités essentielles ou non essentielles, le travail est au cœur des révolutions que nous vivons. Et même si cette crise n'est pas terminée, malheureusement, on peut...